RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Grand reportage à Mossoul, aujourd'hui la deuxième ville d'Irak, libérée du joug des djihadistes début juillet après 9 mois de combats acharnés. L'organisation État islamique qui avait pris le contrôle de la ville en 2014 en a été chassée par les forces irakiennes appuyées par la coalition internationale. La partie est de Mossoul, libérée assez rapidement, semble revivre presque normalement, mais ce n'est pas le cas dans la partie ouest de la ville. Les destructions sont immenses, les habitants qui ont pu revenir chez eux manquent de tout et les tensions avec les forces de sécurité omniprésentes dans toute la ville sont préoccupantes. Mossoul libéré peine à se relever. Grand reportage signé Muriel Paradon et Richard Rivon.
Pour pénétrer dans Mossoul, il faut franchir plusieurs checkpoints. Cela peut prendre plusieurs heures. Contrôle des peshmerga kurdes d'un côté, de l'armée irakienne de l'autre. Des files interminables de voitures et de camions se forment dans la poussière et sous une chaleur étouffante. Une fois dans Mossoul, les embouteillages continuent. Surtout lorsque l'on veut passer à l'ouest de la ville, il faut traverser le Tigre, mais les 5 ponts qui enjambent le fleuve ont été détruits durant les combats entre l'organisation État islamique et les forces irakiennes appuyées par la coalition internationale. Aujourd'hui, seul un pont flottant permet l'accès à Mossoul-Ouest. Il faut s'armer de patience pour traverser et avoir l'autorisation des forces irakiennes. Une fois à Mossoul-Ouest, c'est un spectacle de désolation. Tout est détruit, les immeubles, les maisons, des carcasses calcinées de voitures jonchent encore des avenues à peine déblayées. Les rues sont quasi vides. L'officier de l'armée irakienne qui nous escorte nous guide vers Tayara, un quartier où l'on rencontre quelques habitants réunis autour d'un des innombrables checkpoints de la ville. Ils semblent exténués, comme cette mère de famille.
Je m'appelle Rawa Azem. Nous sommes de la vieille ville, mais nous vivons maintenant dans un autre quartier, dans une école. Nous n'avons rien, rien à manger. J'ai des enfants malades. On est vraiment dans une situation difficile.
Saef, un jeune d'une vingtaine d'années, demande à témoigner.
Nous sommes de Wadi Hajar. Nous n'avons pas d'eau. Et vous savez que l'eau, c'est le plus important pour vivre. Notre quartier est le plus détruit et nous n'avons pas d'électricité non plus. Nous utilisons des générateurs quand ça marche. C'est très, très difficile. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Nous utilisons l'eau du puits. Je déteste cette eau saumâtre. Elle n'est même pas bonne pour se laver les cheveux. Regardez, ils sont tout rêches. Nous voulons de l'eau, de l'électricité, les services de base.
Saef est accompagné d'une vieille femme, édentée, vêtue de noir et très amaigrie. Elle implore.
J'ai 3 filles malades à la maison, mais je ne peux pas les emmener à l'hôpital car je n'ai pas d'argent. Et mon fils est mort, il a été tué par l'État islamique. Maintenant, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons rien, pas d'eau, rien à manger. Tous les jours, je vais voir le gouvernement, je frappe à leur porte, mais ils ne m'ouvrent pas et je reviens toujours et encore.
Pourquoi le président, le gouvernement ne viennent pas nous voir? Pourquoi est-ce qu'on a voté pour eux? Ils ne s'occupent pas de nous.
Les habitants sont démunis. Ils ne savent pas où aller pour réclamer de l'aide. Pour passer d'un quartier à l'autre, il faut aussi montrer patte blanche. Les checkpoints de la police fédérale qui contrôlent Mossoul-Ouest sont omniprésents. Assis à une petite table en pleine rue, un responsable de quartier aide les habitants à remplir des formulaires.
C'est pour les contrôles de sécurité. Ils écrivent leur nom, leur date de naissance, leur adresse, où ils vivent maintenant, où ils vivaient avant, leur profession, etc. Après, l'officier contrôle les gens un par un, et si la personne n'appartient pas à l'État islamique, on lui donne une carte. On peut entrer avec cette carte librement dans le quartier.
L'obsession sécuritaire. Au quartier général de la police fédérale à Mossoul-Ouest, des murs en béton et des chars bloquent les entrées. Le chef de cette unité qui a participé à la libération de la ville nous reçoit dans son treillis bleu et noir aux couleurs de la police fédérale. Hafez Halis.
Après avoir libéré Mossoul Ouest, la police fédérale a pris le contrôle de cette partie de la ville. On a sécurisé la zone, on a fait un travail de renseignement dans la ville. On a fait des rondes, ce qui a contribué à sécuriser la ville de Mossoul. Aujourd'hui, la sécurité est bonne. Il restait des poches de terroristes dans la vieille ville, on les a pourchassés. Mais il reste toujours des mines et des obus qui n'ont pas explosé dans la vieille ville, sous les décombres et dans les maisons. Avec le génie militaire et la défense civile, on va déminer et dans une dizaine de jours, on espère faire rentrer la population déplacée chez elle.
L'entrée à la vieille ville de Mossoul est fermée. C'est dans cet endroit que les combats ont été les plus féroces et qu'il y a le plus de destruction. Aujourd'hui, il est trop dangereux de s'y rendre en raison des mines laissées par l'État islamique. Les forces de sécurité craignent aussi que des djihadistes ressurgissent.
Il y a des cellules dormantes. On essaie de nous en débarrasser et d'assurer la sécurité de la population. Nous avons des informateurs qui nous aident, ils viennent à nous. Et ainsi, nous pouvons démanteler leurs plans. Il y a un mois, on a eu un accrochage dans le quartier de l'église. Trois terroristes se cachaient dans une maison là-bas. Ils sont sortis dans la rue à la recherche de nourriture. C'était des infiltrés. Ils avaient sur eux des grenades et des armes. Il y a eu un affrontement et nous les avons éliminés.
Quant à la reconstruction à Mossoul Ouest, Hafez Alis, le chef de la police fédérale, admet qu'elle prendra beaucoup de temps.
L'une de nos priorités, c'est le rétablissement des services de base à Mossoul. Des efforts sont déployés. La reconstruction des ponts entre les deux rives de Mossoul a commencé. Les centres de soins ont rouvert. Nous avons rétabli une partie de l'eau courante et l'assainissement, mais la plupart du réseau d'eau est endommagé. 30% de Mossoul Ouest est de nouveau raccordé à l'eau et au réseau électrique. Et le travail continue, mais nous rencontrons des difficultés. Pour l'électricité, par exemple, il n'y a plus de transformateurs électriques. Il y a peu de moyens et les destructions sont immenses. Il nous faudrait une assistance internationale. La situation économique et financière de l'Irak ne permet pas d'engager tous ces chantiers à court terme.
À Mossoul Ouest, certaines rues ont tout de même repris un semblant de vie. Dans cette artère, on trouve quelques échoppes ouvertes, comme cette épicerie. Fawaz Hachem tient la boutique.
Nous vendons des produits alimentaires et toutes sortes de biens. Ils viennent de l'autre côté de la ville, de Turquie et d'Erbil. C'est très difficile de faire venir la marchandise, surtout ces derniers temps, parce qu'il y a juste un pont qui relie les deux côtés. C'est bondé et la situation n'est pas très stable non plus. Pas mal de gens achètent, mais on ne vend pas autant qu'avant car beaucoup d'habitants sont restés à l'est. Ils ne sont pas encore revenus à l'ouest.
L'est de Mossoul n'a rien à voir avec les ruines et le silence de l'ouest de la ville. Ici, la vie est partout. Les quartiers ont été libérés de l'État islamique il y a plus de 8 mois. Les rues sont encombrées, à l'extérieur des cafés, les hommes fument la chicha et boivent le thé. Le marché couvert est bien achalandé et les clients sont nombreux, hommes, femmes, enfants, comme si la guerre n'était qu'un mauvais et lointain souvenir. Et Sam, un vieil homme, s'est arrêté chez un marchand de légumes.
J'achète des poivrons. Dieu merci, la situation est meilleure qu'avant, même si ça ne bouge pas encore beaucoup au niveau de l'activité. Il n'y a pas de salaire non plus.
Ahmed, lui, vend des vêtements. Il vient de l'ouest de Mossoul et s'est réfugié à l'est durant les combats.
Je loue cette échoppe, la mienne est de l'autre côté. Maintenant, ça va très bien. Ça fait 6 mois que ça redémarre. Il y avait des opérations de l'armée irakienne là-bas. Ils ont fermé mon magasin et donc je suis venu ici.
Pendant la guerre, vous vous êtes senti menacé par l'État islamique ?
Oui, on était menacés. L'État islamique nous tuait, nous battait, nous volait. J'ai fui avec ma famille. Maintenant, la situation est bonne, mais j'aimerais retourner chez moi. On ne peut pas y aller, tout est détruit. On a essayé, mais les autorités ne nous laissent pas. Ce n'est pas encore sécurisé. J'espère que ça ira mieux.
Direction le quartier de Kadisiya, à Mossoul Est. Un quartier gardé par l'armée irakienne. Les rues sont quasi désertes en ce milieu de journée. De nombreuses maisons gardent les stigmates des combats et sont encore détruites. Ici, un jardin d'enfants, intact, mais vide. Il faut aller frapper aux portes pour trouver âmes qui vivent. La famille Kamal nous accueille. Dans la cour, les femmes fabriquent du pain. Isra, la plus âgée, nous emmène au salon, au milieu des hommes. 5 familles sont réunies dans cette maison, 30 personnes au total. Certaines sont venues de l'ouest dévasté pour trouver refuge chez la cousine Isra, propriétaire de la maison.
Ça fait 6 mois qu'ils sont chez moi et ils ont perdu leur maison. Seul Dieu connaît notre situation, ce que nous sommes en train de vivre. Tous les hommes sont au chômage. Chaque jour, ils me ramènent quelques dinars, je ne sais pas quoi acheter avec. De la nourriture, des médicaments, on est endettés. On fait notre propre pain quand on nous donne de la farine. 45 galettes de pain par jour.
Mustapha Kamal, qui s'est réfugié avec sa famille chez Isra, se remémore les moments tragiques de la guerre.
On a quitté l'autre rive car nos maisons ont été détruites. La mienne a été réduite en poussière. Où voulez-vous que j'aille? On est venu ici chez ma cousine car les loyers sont très chers, alors qu'on est tous au chômage. Nous avons quitté nos maisons durant Ramadan, début juin. On a été ciblés par des frappes et on est parti. Au moment où nous allions fuir, on a été ciblés par l'État islamique qui tirait contre la population, mais on a réussi à passer. Sous l'État islamique, c'était destruction sur destruction. On n'avait rien à manger, rien à boire. On ne travaillait pas, il y avait des tueries. C'était ça, vivre sous l'État islamique. Quelquefois, ils distribuaient de la farine sur la dernière période. Sinon, il n'y avait rien. Pas de fioul pour cuisiner, on allumait des feux comme on pouvait, avec des bouts de bois.
Lorsque la famille s'est enfuie de la vieille ville, la cousine de Mustapha Kamal, Tessir, a perdu 2 de ses fils, de 24 et 10 ans.
Mon aîné, qui était étudiant en sciences, a été tué d'une balle à la poitrine. Le plus petit était en haut, dans sa chambre. Il a été touché dans son dos et ça a traversé dans sa poitrine. Il a survécu pendant 2 mois, il a beaucoup souffert et puis il est mort. L'aîné avait 24 ans et le petit, 10 ans.
Tessir n'a pas envie de retourner à Mossoul Ouest où elle a tout perdu. Son cousin, Muammar, âgé de 22 ans, lui rêve de partir loin. Il n'y a pas d'avenir ici, dit-il.
Je me lève le matin, je vais voir des amis qui vendent des vêtements pour hommes au marché. Je faisais ça avant, mais je ne peux plus. Je n'ai pas l'argent pour ouvrir mon affaire. Je vais juste les voir. Nous vivons mal la situation, nous sommes tristes. Je voudrais émigrer, partir à l'étranger. J'attends mon passeport, je ne veux pas rester en Irak. Vivre en Irak, c'est difficile. Il y a toujours des problèmes.
Sans travail et sans revenu, la famille Kamal vit de l'hospitalité d'une cousine. Mais jusqu'à quand ? Elle ne sait même pas si elle retournera un jour dans la partie ouest de la ville. À quelques pas de là, 2 maisons à moitié en ruine sont en train d'être reconstruites. Dans l'une d'elles, il y a Ismaël Ibrahim, 60 ans. Muni d'un seul marteau, il essaye de réparer son toit à moitié effondré.
Je reconstruis ma maison détruite par un bombardement, car elle avait été prise par l'État islamique. Elle a été touchée par des obus de mortier. J'étais là, mais ils m'ont forcé à partir. Cela fait 7 mois que je suis revenu. Quand je suis rentré, toute ma rue était explosée. Il y avait des voitures calcinées, des obus de mortier. Les trottoirs étaient impraticables. Ma maison était détruite par les bombardements. Chez moi, il y avait un obus de mortier, mais l'armée irakienne l'a emmené. Ma maison était proche de cette rue où les forces irakiennes étaient positionnées. C'est pour ça que l'État islamique s'est installé ici.
Maintenant, vous reconstruisez votre maison tout seul ?
Je reconstruis seul. Je n'ai pas de salaire, pas d'argent. Comment pourrais-je prendre quelqu'un pour m'aider? J'ai vendu ma voiture pour acheter du ciment.
Pour Ismaël Ibrahim, c'est la débrouille. Le gouvernement est bien passé chez lui pour évaluer les dégâts dans sa maison, mais il n'a toujours pas touché d'aide. En ce qui concerne la reconstruction, la priorité est donnée aux infrastructures et aux bâtiments gouvernementaux. Pour sortir du quartier de Qadisiyya et pour rejoindre un autre quartier, il faut passer par un point de contrôle. La sécurité est omniprésente à l'est comme à l'ouest de Mossoul. Ici, les drapeaux chiites sont visibles un peu partout sur les checkpoints. Des drapeaux noirs aux inscriptions jaunes à la gloire de Hussein, figure sacrée des chiites. L'armée irakienne ou les milices qui y sont rattachées mettent en avant leur appartenance communautaire, fiers d'avoir libéré Mossoul des mains d'une organisation, l'État islamique, d'obédience sunnite. Le problème est que Mossoul est aussi majoritairement peuplé de sunnites et que les drapeaux chiites passent mal. Alaa Mustafa, un commerçant de Mossoul Est, nous reçoit chez lui, à l'abri des regards. Il ne décolère pas contre les chiites.
C'est vrai que les villes sont militarisées. Où que tu ailles, il y a des militaires. La place des militaires n'est pas dans les villes. Cela veut dire qu'il n'y a pas de sécurité. On a peur, en fait. Avant que l'État islamique vienne en 2014, Mossoul était sunnite. Depuis qu'ils sont partis et que la ville a été libérée, il y a des drapeaux chiites partout avec Hussein dessus. Mossoul n'est pas chiite, nous ne l'acceptons pas. Cela provoque des frictions entre communautés. Ici, nous ne voulons que le drapeau irakien à Mossoul. C'est vrai qu'ils viennent pour notre sécurité, mais ça sert à quoi leur drapeau chiite? C'est de la provocation. Mossoul appartient aux habitants de Mossoul.
À la libération, la population a bien accueilli les forces irakiennes, mais ces dernières ont soupçonné la population d'avoir collaboré avec l'État islamique, sunnite comme elle. D'où les tensions. Le commandant des forces armées à Mossoul en est bien conscient. Il nous reçoit dans l'enceinte hyper sécurisée du QG de l'armée, immense bureau dans une demeure cossue. Le général Najim al-Djoubouri, petite moustache treillis kaki, porte le poids des années et de l'expérience.
Je pense que maintenant la situation est très bonne à Mossoul. Une chose très importante est que la sécurité dépend de la population. C'est la base. La population rejette maintenant l'État islamique et toute autre mauvaise organisation. Particulièrement à l'Est, si vous allez au marché, au centre-ville, vous allez voir une vie normale. Les gens maintenant ont de bonnes relations avec les forces de sécurité. Pas très bonnes, mais ça va. Nous avons établi des ponts entre eux et nous.
Dans les rues de Mossoul, il y en a un qui fête chaque jour, en musique, la libération de Mossoul. C'est Ahmed, un vendeur de CD.
Je suis le propriétaire de ce magasin, je vends des CD. Quand l'État islamique est venu, il a fermé mon magasin en disant « c'est haram, péché ». Ils m'ont arrêté, ils m'ont amené dans leur prison, mais maintenant que la ville est libérée, j'ai rouvert mon magasin, je distribue mes CD à Mossoul. Je suis très heureux de mon travail, je suis très heureux que les forces irakiennes aient libéré le quartier. Nous manquons d'électricité et d'eau, mais nous sommes libres maintenant.
Mossoul libéré peine à se relever. Un grand reportage de Muriel Paradon et Richard Efono, à la réalisation Sandrine Straram.